Moi, je suis rentré du Mali au Cap Oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Félix de Koumbani au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Trois nouvelles démissions ont été enregistrées lundi dernier au sein du gouvernement de l'Équateur que dirige Tony Bolamba. Les ministres provinciaux de la communication, de la justice et du budget ont rendu leur tablier. Cela porte à 7 le nombre de ministres démissionnaires en l'espace de 3 mois. Tous reprochent au gouverneur la mauvaise gouvernance, la confiscation des prérogatives et le manque de collaboration. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler directement au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Julie Cézabougonda s'occupe du standard et Alain Goy est à la mise en onde et Pierrot et la Mégie à la réalisation de ce programme. Coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebou Jangui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne, Maître Pita. Vous êtes en Bandaka. Bonjour, Maître Pita.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, Maître Pita, comment commentez-vous cette actualité? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la décentralisation est en train de souffrir dans son application à travers les provinces démembrées? Parce que l'État que nous venons de vivre en Bandaka, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt.
Justement, monsieur le journaliste, il se pose un problème de maîtrise des textes et qui organise la décentralisation en République entière du Congo par les autres gouverneurs. Et donc, il se pose également un problème de leadership. Le problème de leadership se pose au niveau de l'éclairage que doit avoir le gouverneur qui est appelé à gouverner, à diriger toute une équipe gouvernementale. Messieurs les journalistes, depuis 2006, l'État congolais a inauguré la décentralisation. Il y a des textes sur lesquels cette décentralisation est assise, notamment la constitution de la République du Congo. Si vous vous souvenez bien, l'article 195, et qui organise, qui prévoit l'institution politique provinciale, où il est dit, nous avons l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et toujours dans la Constitution, sans oublier les lois, la loi par exemple, la loi 08, qui porte libre administration de province, dit, organise également la manière, dit également la manière, et dit également la manière que les gouverneurs doivent se conduire. Si nous revenons dans la Constitution, l'article 198 dit que le gouvernement provincial est composé de gouverneurs, du vice-gouverneur et d'un ministre provincial. Ça signifie que le gouverneur, lorsqu'il est élu gouverneur, il ne doit pas se mettre dans sa tête qu'il est le seul responsable de l'Assemblée de la province ou il est le seul membre du gouvernement au regard de la disposition de la loi constitutionnel
que je vais invoquer. Oui, Maître Pita, quand nous lisons tous ces textes légaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas clairement dit comme dans la Constitution en ce qui concerne la collaboration qui doit exister entre l'exécutif du gouvernement central et d'autres institutions, par exemple de la République. Mais au niveau des provinces, on a l'impression qu'au-delà ou au-dessus du gouverneur, il n'y a rien.
Non, je vais t'invoquer des institutions provinciales. L'Assemblée provinciale est la première institution.
Oui.
Donc, cette Assemblée provinciale est au-dessus du gouverneur. C'est elle qui décide de donner le sort. Donc, revenons sur mon feeling. Donc, sur mes idées, je disais que le gouvernement provincial n'est pas dirigé. Oui, il est le chef du gouvernement en tant que gouverneur, mais le gouvernement provincial est composé de lui-même, du vice-gouverneur, et qui ne peut pas prendre des décisions seul. Il ne peut pas travailler comme s'il n'avait pas un gouvernement. Il ne peut pas travailler comme s'il n'avait pas un vice-gouverneur. Et donc, cette manière de voir les choses, ou peut-être l'inexpertise sur le leadership qui est appelé à gérer les provinces, pose un problème. Et puis, parce que la loi, les lois qui organisent les
provinces
ne sont pas respectées. Nous enregistrons des infractions. Nous enregistrons le découragement, comme c'est le cas des missions que nous avons enregistrées dans le gouvernement provincial et de l'Équateur.
Mais c'est quand même curieux et aussi regrettable en l'espace de 3 mois, pratiquement le 2/3 de l'exécutif provincial et des missionnaires.
Mais justement, c'est là. Donc, je te rappelle, vous venez de dire que au-dessus du gouverneur, il n'y a pas quelqu'un et qui peut agir. Je rappelle pour dire que l'Assemblée provinciale est là pour corriger ces déviances, ces comportements déviants de gouverneurs qui se croient au-dessus de tout ou au-dessus de la mêlée. Donc, je viens d'expliquer le malaise qui caractérise le fonctionnement des gouvernements provinciaux. Il se pose le problème de ceux-là qui sont appelés à gérer les provinces. Lorsque lui-même n'a pas la maîtrise des textes légaux et réglementaires qui organisent les pouvoirs dans les provinces, nous allons continuer à vivre ce genre de choses. Donc, s'agissant du gouvernement de l'Équateur, le gouverneur de la province doit être mis devant la barre. Là, je demande à l'Assemblée provinciale qui nous suit. S'ils me suivent, ils doivent interpeller le gouverneur. Parce que lorsqu'il a nommé le gouvernement, il a présenté ses ministres devant l'Assemblée provinciale.
Alors, maître Pita, si on vous retient, oui. On vous retient, parce qu'on a quand même besoin d'avoir un peu d'éclairage. Vous êtes en Bandaka, vous êtes juriste, mais au regard de l'histoire, depuis que, en fait, la République démocratique du Congo s'est engagée dans cette voie de la décentralisation, on a remarqué qu'aujourd'hui, la province qui pose problème, qui constitue également une école, mais pas dans les bons sens, parce qu'elle a été la première d'ailleurs à connaître la démission, la première démission du gouverneur par à travers de son assemblée provinciale. Je me rappelle à cette époque avec le gouverneur José Makila. Donc il y a eu déjà des problèmes. Et par la suite, plusieurs gouverneurs ont eu des problèmes pour en fait exercer le pouvoir dans cette partie du pays. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, avec cette démission, c'est déjà un début d'une autre crise au niveau de l'exécutif provincial ou au niveau de l'exercice du pouvoir dans la province de l'Équateur qui vient de reste d'être démembrée?
Bon, j'ai évoqué tantôt le problème de leadership. Je ne partage pas ce point de vue selon lequel on risque de vivre une crise. Non, les acteurs sont déterminés. Le gouverneur de province est là, les ministres provinciaux sont là, l'Assemblée provinciale au-dessus de tous. Donc, parce que l'Assemblée provinciale est là pour observer. Nous avons vécu l'ouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur où le président de cette institution a rappelé au gouverneur de province qu'il avait l'obligation de bien coopérer avec tous les organes de l'État fonctionnant dans la province de l'Équateur. Là, je vois sa collaboration entre donc sa collaboration avec les membres des comités de sécurité provinciale, sa collaboration avec les ministres de la provinciaux. S'agissant des ministres de la provinciaux, le gouverneur est dans l'obligation, selon la loi, d'instituer de promulguer une loi, un arrêté portant fonctionnement du gouvernement provincial. Tout ça, ce n'est pas parce que le gouverneur, peut-être, il n'a pas l'information requise s'agissant de la gestion de la province.
Merci beaucoup.
La crise, la crise, à mon avis, n'a pas sa raison d'être parce que les acteurs sont connus.
Merci.
L'Assemblée provinciale qui a investi le gouvernement, l'Assemblée provinciale auprès de qui le gouverneur est venu dire voilà mon programme et que je vais exécuter avec ce gouvernement que je vais dénommer. Et qu'on a juste dans ce gouvernement, c'est du départ. Donc l'Assemblée provinciale est fondée. S'appeler au gouverneur et lui dit, mais vous avez présenté un programme avec ces ministres les 7 ministres sont partis. Vous allez exécuter ce programme-là avec quel type de ministre?
Merci beaucoup. Voilà. Merci
donc,
beaucoup, Maître Picard.
L'Assemblée provinciale est là. Je crois qu'il n'y a pas de crise. Si le gouvernement ne répond pas à cette question-là, comme nous l'attendons ou comme nous pouvons l'attendre, l'Assemblée provinciale a des mécanismes
pour, voilà,
par rapport à un comportement qui ne marche pas dans les chiffres d'un ministre, dans les chiffres de l'État lui-même. Donc là, c'est allusion à la motion.
Merci beaucoup, Maître Pita. Nous retenons dans vos propos deux éléments. D'abord, le manque de maîtrise des textes légaux qui, en fait, disposent ou parlent de l'exercice de pouvoir dans nos provinces, et également le problème de leadership. Merci beaucoup, Maître Pita, d'avoir appelé de Mbandaka. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci pour l'invitation, JR. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Je tiens d'abord à saluer les interventions combien louables du premier intervenant. Vous savez, par rapport à ce qui se passe en Équateur, moi je pense que si du moins il n'y a pas montage pour vouloir déstabiliser la province de l'Équateur, tout le monde doit encourager et louer l'initiative de ces ministres qui ont décidé de ne pas fermer les yeux, qui ont décidé de se comporter en responsable et parvenir à dénoncer la mauvaise gestion de leur province. Parce que, à la lire où vont les choses en République démocratique du Congo, moi je m'imagine que ces ministres ont dit tout haut et que d'autres ministres provinciaux disent tout bas à travers toute la République. Aujourd'hui, si vous essayez de voir la réalité, presque toutes les provinces connaissent le même problème. Il y a problème de manque du courant, manque de l'eau, il y a problème des routes, il y a insécurité partout. Et nous avons des gouvernements provinciaux qui n'agissent jamais. Il y a des détournements même des fonds publics. Et d'ailleurs, on parlait même des complicités de certains gouverneurs. Moi, je parle d'exemple, je ne suis pas le patron, mais je parle de ma province aussi, qui vaut aujourd'hui. Je parle de la province de Kivu aujourd'hui, qui a des difficultés énormes, sur tous les plans. Chaque jour, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle de quelques sociétés situées, de maisons attaquées pendant la nuit, partout dans la province, que ce soit dans la ville comme dans le territoire. À part ça, il y a des détournements qui sont publics.
Oui, 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 mais au moins à Bukavu, il n'y a pas de démission dans l'exécutif provincial.
C'est là que le problème arrive parce que nous assistons à des gens qui sont des pistolets et qui se servent même de barman. Il y a eu un tournement de 6 millions dans la province. J'ai entendu mon prédécesseur parler de l'Assemblée provinciale. Ici, nous avons une Assemblée provinciale, mais qui a apparemment des absolument rien au vu de la situation et qui déçoit tout le monde dans la province. Il n'y a presque rien. On a toujours parlé même des routes de cette agricole et rien ne va dans la province. Mais on voit des ministres qui ne bougent pas.
Qu'est-ce qui se passe là-bas, Bukavu? Parce que selon des sources d'information crédibles d'ailleurs, il y a déjà, mais ce n'est même plus un secret, certains membres du parti du PPRD réclament le départ du gouverneur.
Justement, monsieur, j'étais disant que les agents du gouvernement ont pris des vêtements impayés. Mais les ministres continuent toujours à courir derrière le gouverneur. Ils ne peuvent pas dénoncer ça. Mais même le savoir ne peut pas dénoncer ça. Et c'est hier qu'on venait de me dire que les gens du PPRD sont partis. On commençait à insister devant sa résidence réclamant sa démission. Voilà que nous disons souvent, on peut dire que quand les ambassades peuvent vous dire que le tirateur est malade, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regretter parce que tous ces animaux vivent dans l'eau et ils peuvent se connaître valablement. Là où les gens du PPRD parviennent à dénoncer que rien ne va et que le gouverneur Masele Tshiambo a failli à sa mission, je pense qu'on ne peut plus discuter et cela vient de donner raison à tout le monde dans la province.
Oui, Amos, quand vous dites que on ne peut pas discuter, bon, je ne pense pas que c'est une évidence à laquelle on ne peut pas discuter, parce qu'il y a une assemblée provinciale, comme venait de le dire tout à l'heure Maître Pita, au-dessus du gouverneur, il y a dans les instances du pouvoir l'assemblée provinciale qui est habilitée à pouvoir soit parer une motion de défiance ou encore une question orale pour avoir des éclairages par rapport à une situation qui prévaut dans la province. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a des mécanismes mis en place dans le système de décentralisation que nous avons, l'option que nous avons pu lever pour finalement régler ces genres de conflits. Et c'est vrai, en Bandaka, on parle de la mauvaise gouvernance, de la confiscation des prérogatives. Oui, et non.
Cela devait être des cas, malheureusement. Nous avons des assemblées qui sont toujours manipulées par les exécutifs progressistes. C'est cela que ça passe. Même à Goma, on m'a parlé qu'à Goma, il y a aussi environ 5 mois, que les agents du gouvernement provincial ne touchent pas. Vous comprenez que c'est un problème sérieux qui explique la mauvaise gouvernance au pays, du sommet à la base. Et c'est ce qui passe. Et vous allez comprendre que dans tout ça, la population, c'est elle qui est perdante, parce qu'apparemment, elle est abandonnée à son triste sort. C'est comme cela qui devait porter ce risque favorable au propre quotidien de toute la population. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'on devrait comprendre que la situation continue à s'empirer davantage et il faut que le peuple parvienne à raisonner des fois pour que reprenne les choses et pour que parvenir à remettre le pouvoir aux gens.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos. Là, carrément, vous avez raison également, Maître Pita de Mbandaka, qui parlait tout à l'heure de la maîtrise, devant le manque de maîtrise des textes légaux qui, en fait, régissent le fonctionnement des institutions et également les artistes de pouvoir dans les provinces. Et aussi, de notre côté, il y a ce problème de leadership qui se pose avec acuité, non seulement à Mbandaka où on assiste aujourd'hui à ces problèmes, mais aussi ailleurs. Vous avez évoqué les cas de Bukavu et les informations que vous avez pu partager avec d'autres amis qui sont à Mbandaka, à Goma, où il y a les ministres provinciaux qui ont accusé 5 mois de retard dans leur paiement. Nous l'avons dit d'ailleurs dans plusieurs émissions que la décentralisation avec les démembrements actuels, et ça apporte aussi un personnel important que le gouvernement doit payer, le gouvernement doit payer aujourd'hui, et ça fait quand même une grosse enveloppe qu'il doit falloir gérer, sinon ça créera des problèmes. Alors merci beaucoup à Amos d'avoir appelé de Bukavu. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis, Félicien? Est-ce que vous partagez l'avis, comme venait de le dire Maître Peter, qu'il y a ici là, manque de maîtrise des textes légaux, où il y a pas mal de confusion, voilà pourquoi les chefs des exécutifs provinciaux en font à leur tête et ils sont comme des petits rois télé?
Exactement, nous avons déjà dénoncé ce système de gestion des provinces. Et nous avons déjà vu, quand les provinces n'étaient pas encore démembrées, la difficulté qu'il y avait avec tous ces gens qu'on nomme et qui se comportent comme des rois télé. Et aujourd'hui, avec le démembrement, ça devrait être encore pire. Et c'est ça l'exemple qui est en train d'être donné. Mais dans tous ces cas-là, c'est un problème général de gouvernance dans notre pays et que nous avons besoin de revoir. Et partout où on a nommé quelqu'un, il fait ce qu'il veut, il se comporte comme il veut. Ses collaborateurs, tous ceux qui dépendent de lui, peuvent crier, peuvent écrire, peuvent voir n'importe quelle hiérarchie, mais ça bouge pas. Ça, c'est ça le problème d'anti-valeur, c'est ça le problème de clientélisme, de tribalisme, de corruption. Parce que si la gouvernance d'un pays était vraiment calquée sur l'éthique, la morale, les vertus et tout ça, le patriotisme, donc chaque fois qu'il y a un petit bruit quelque part, il y a quelqu'un qui doit vérifier qu'est-ce qui se passe. Nous avons tous les organes de contrôle, nous avons la Cour des comptes, nous avons tous les audits qu'on peut envoyer. Et on a vu les assemblées provinciales en difficulté et les gouverneurs en train de régner en maître absolu. C'est-à-dire qu'il est soutenu quelque part. Mais il y a quand même un arbre hiérarchique partout. Il y a une structure organique partout. Il y a personne qui dépend directement de Dieu. Mais pourquoi on ne peut pas vraiment travailler dans le sens de construire la nation, dans le sens de donner le mieux-être à la population? C'est seulement quelqu'un qu'on a nommé, dès qu'il est nommé, il a des gens qui le soutiennent. Ils sont où ces gens-là? On ne sait pas. Ils sont invisibles. Mais il est très fort et les gens peuvent pleurer, les gens peuvent crier, personne ne les entend. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. C'est ça qui a fait que la misère se généralise. Et quand maintenant cette misère se généralise, on se demande, c'est l'opposition qui est en train d'amener les gens dans la rue et tout ça. On ne regarde pas pourquoi les gens sont mécontents. Pourquoi les gens disent qu'ils souffrent? En quoi est-ce qu'ils souffrent? et c'est ça.
Oui,
et qu'on les laisse, il y en a d'autres qui font comme ça. Le développement viendra d'où, Gérard?
Alors,
il y en a d'où s'il n'y a personne qui veut regarder à ce qu'on fait ici et là. S'il n'y a personne qui veut écouter les cris de la population, alors on vivra comment dans ce pays?
Alors, Félicien, il y a une question aujourd'hui, c'est vrai, il y a Maître Peter qui a parlé de manque de maîtrise des textes. On sait que la Constitution parle largement de cet exercice du pouvoir, comment fonctionnent les institutions, que ce soit même les institutions provinciales. Mais aujourd'hui, avec la loi sur la libre administration des provinces, qu'est-ce qui serait à la base aujourd'hui de l'inefficacité de l'application de cette loi dans les provinces?
Mais le déficit de leadership et le déficit communicationnel, le manque d'expertise et tout ça, et la corruption, les anti-valeurs en général, c'est que les compatriotes ont évoqué. Mais c'est tout ça. Mais est-ce qu'il y a personne qui peut voir si ces lois-là sont appliquées, ces textes-là sont appliqués, si c'est lui qui est là qu'on a nommé là-bas, et en train de faire son travail comme il devrait le faire, parce que la finalité, c'est apporter le mieux-être à la population. On va laisser quelqu'un, les textes sont là parce que les textes sont là, les textes, il faut les appliquer. Mais si quelqu'un n'applique pas les textes, même si ce sont des bons textes, il y a personne pour lui demander pourquoi tu n'appliques pas les textes. Comment cette ministre peut vous démissionner? Personne ne demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi ils démissionnent? Pas des commissions d'enquête, pas des contrôles. Non, c'est pas normal. Mais c'est vraiment ça que nous vivons dans notre pays, et surtout dans les entreprises publiques. Allez voir ce que ces entreprises ont devenu depuis des années, et personne ne regarde. C'est comme si il n'y a personne au-dessus. Il n'y a pas de ministre de tutelle. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de parlement. C'est comme ça que nous vivons dans ce pays.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicia, d'avoir appelé, et vous rejoignez donc également notre premier auditeur qui a parlé de manque de problème de leadership. Et Willy, qui nous a écrit, a déposé son message sur notre page Facebook, dit ceci: il est vrai que sur le plan du droit, le gouvernement provincial n'est pas réputé démissionnaire pour autant, parce que cette question relève plus de la politique. Le gouverneur doit être interpellé. Donc, il s'agit là du gouverneur de l'Équateur par l'Assemblée provinciale pour apporter des réponses aux griefs qu'on lui impute. Alors, cette vague de démission pourrait entraîner politiquement une censure du gouvernement. Alors, faut-il rappeler que ces ministres ont été investis après l'approbation du programme à l'Assemblée. Voilà, donc c'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, les exécutifs provinciaux sont présentés au niveau de l'Assemblée provinciale en présentant le gouvernement, et ce gouvernement a été investi sur base d'un programme. Et maintenant qu'il vient d'être démissionné, est-ce que tout le gouvernement est démissionnaire? Bon, on apprend que déjà le gouverneur Tony Ebolama a déjà restructuré son gouvernement avec les 4 ministres qui sont restés, qui sont toujours, qui gardent encore leur poste, et d'autres qui ont rejoint les gouvernements. On verra. Et il est temps pour nous donc de vous rappeler, chers auditeurs, que si vous venez de nous rejoindre, que vous pouvez participer à cette émission en direct en composant le 081-890-75.
Chaque jour, la fréquence de la paix loue le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen qui reçoit pour vous en ligne professeur Faustin Toyengano, qui est politologue. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes politologue. Que vous inspire la situation que prévoit actuellement l'exécutif provincial de la province de l'Équateur?
Bon, écoutez, je pense que ce qu'il faut d'abord dire, qu'on doit éviter de faire une généralisation abusive de la situation qui s'est produite à l'Équateur, au gouvernement de la province de l'Équateur. Deuxième chose, je crois aussi que ce qui se passe à l'Équateur C'est en fait la manifestation d'un certain malaise qu'on observe déjà dans ce gouvernement et ce qui traduit aussi en fait l'expression de certaines libertés. Le gouvernement provincial, la deuxième institution de la province, est composée, mise en place par le gouverneur de province. Et ce gouvernement doit être investi par l'Assemblée provinciale après adoption du programme d'action présenté par le gouverneur. Alors, la fonction d'un ministre national ou provincial prend fin, entre autres, par la démission. Donc la démission est une possibilité pour mettre fin à la fonction d'un ministre. C'est constitutionnel. Alors, lorsque un ministre démissionne, évidemment, il évoque ses raisons. Dans la plupart des cas, nous attendons le procès du genre, je démissionne pour des raisons de convenance personnelle. En fait, on ne doit pas faire un grand débat autour de ça. Okay. Mais lorsque 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 ministres, sur un total de 10, démissionnent et à la même période, évidemment, ça sort quand même de l'ordinaire. Et en ce moment-là, ça devient un fait politique et juridique important qui doit obligatoirement interpeller l'Assemblée provinciale parce que le gouvernement provincial est comptable devant l'Assemblée provinciale et c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale et le gouverneur qui est le chef de l'exécutif doit rendre compte de la situation à l'Assemblée provinciale. Il se fait heureusement que l'Assemblée provinciale en ce moment est en pleine session. Et je pense que ça devrait être une priorité pour cette assemblée d'appeler le gouverneur pour en savoir plus ce qui se passe dans ce gouvernement. Aussi, ça ne doit pas seulement être l'affaire de l'assemblée provinciale. Le gouverneur est issu d'une famille politique quelconque. Et il forme son gouvernement sur base des compromis, des accords obtenus ou dégagés dans cette famille politique. Et lorsqu'on constate que dans le gouvernement provincial, dirigé par un gouverneur qui est désigné par une famille politique, qui a été présenté par une famille politique, je pense que cette famille politique doit se sentir aussi interpellée, parce que c'est l'image de la famille politique qui est vendue à travers cet événement. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, on doit mener des actions, faire une action politique pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a placé l'homme qu'il faut? Pourquoi ce ministre vient de quelle famille politique? Est-ce qu'il vient de la famille
la majorité,
ou que celle du gouverneur? Voyez, ou ce sont les membres des partis qui ont été désignés au sein de la famille politique pour comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Je pense qu'à ce niveau-là, on doit chercher à creuser pour comprendre. Et lorsque le ministre démissionne avec comme argument mauvaise gouvernance, manque de collaboration, et ce n'est pas ce qu'on a toujours dit pour des raisons de convenance personnelle. Je crois que là, ces deux motifs, mauvaise gouvernance, manque de collaboration, méritent d'être vérifiés. Et qui doit vérifier cela? C'est notamment l'Assemblée provinciale d'abord, et je dis aussi la famille politique à laquelle appartient le chef de l'exécutif provincial. Et in fine, il y a une institution, il y a un garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le chef de l'État, qui ne doit pas être indifférent de ce qui se passe au gouvernement provincial. Moi, je pense que on doit d'abord exclure la possibilité de déclarer la démission du gouvernement ou la déchéance du gouvernement. Cela ne peut arriver qu'après investigation. Et s'il s'avère que les grillages formulés par les membres du gouvernement démissionnaire sont vrais, mais je pense que les instances compétentes doivent tirer toutes les conséquences de cela pour remettre de l'ordre et permettre à la force de l'équateur de bien décoller.
Oui, alors parce que, professeur, vous gardez encore en ligne, il y a un auditeur qui vient de nous rejoindre, et puis il a écrit dans son message pour nous dire que, c'est, donc, disons, en détail, qu'est-ce que, en fait, les raisons de cette déclaration faite par par les ministres démissionnaires. Et ils apportent quand même quelques éclairages sur cette mauvaise gouvernance dont on parle, et avec le manque de collaboration. Maître Willy, vous êtes à Kinshasa?
Non, je suis en Bandaka, en province de l'Équateur.
Voilà, alors Maître Willy, vous avez dit que vous avez réellement l'éclairage à apporter par rapport à cette mauvaise gouvernance dont que venait d'évoquer les ministres démissionnaires.
Tout à fait, nous avons des éléments, des éclairages à apporter par rapport à toutes ces démissions. Vous avez 7 ministres qui démissionnent et tous, n'est-ce pas, reprochent le gouverneur de province de manque de collaboration, de confiscation de leurs attributions et de la mauvaise gestion. Concernant le manque de collaboration, monsieur le journaliste, nous assistons à un problème sérieux à la tête de notre province. Le comportement irrespectueux du gouverneur vis-à-vis des collaborateurs est ne pas à rechercher. Et le cas le plus probant et le plus récent est celui des membres du comité de sécurité. Vous l'avez su, cela a été relayé même par la radio Capi, qui l'avait affaire avec des magistrats. Nous avons appris même qu'il avait chassé le procureur général, qui est aussi membre de droit du comité de sécurité de sa résidence, et ce climat n'est pas du tout bon. Hein? Voyons le second aspect, le second grief relatif à la confiscation des attributions. Nous savons tous que la loi sur la libre association de province, en son article 29, donne un pouvoir au ministre. Il est dit clairement dans cette disposition légale que le ministre est le responsable de son département. Il est le responsable. Politiquement, celui qui répond devant l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce qui arrive? Le gouverneur confisque le pouvoir reconnu au ministre. Nous avons suivi le ministre du budget à l'émission Dialogue entre Congolais, c'était, je crois, hier ou avant-hier. Il avait dit clairement que tout se passe entre le gouverneur et son ministre des Finances. Alors que lui, il est là, il est reconnu par la loi pour pouvoir exécuter, n'est-ce pas, certaines dépenses. Engager les dépenses de la province.
Mais alors,
au-delà de ça,
oui, Maître Willy, est-ce que les départs n'étaient-ils pas biaisés lorsqu'il y a eu élection du gouverneur dans la province? Parce qu'il y avait deux camps, il y avait la majorité et l'opposition. La majorité avait un candidat qui n'est pas celui qui est sorti aujourd'hui, et l'opposition, malheureusement, il n'a pas pu récupérer la province comme par le passé. Mais on sait tout de même qu'il s'agisse de candidats ou carrément des gouverneurs qui ont précédé Kenny Bolamba, même ceux qui étaient de la majorité ont eu des problèmes avec l'Assemblée provinciale qui est du reste entièrement de l'opposition. Alors, est-ce que vous ne craignez pas aussi, comme les autres le redoutent, qu'aujourd'hui, c'est le début déjà d'une crise, parce que le gouverneur actuel n'est pas de la famille politique, en tout cas dans le sens strict de la majorité?
Non, je vois que là, nous risquons d'entrer dans une confusion, dans des considérations qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons. Je suis parmi les administrés de cette gouvernance. Ce n'est pas la majorité présidentielle ni l'opposition qui, n'est-ce pas, pousse le gouverneur de province, l'actuel gouverneur, à tout ce que nous décrions, à tout ce que ces ministres décrivent.
Merci beaucoup,
monsieur. La mauvaise gestion, monsieur le journaliste.
Voilà, je crois que vous avez tout dit, nous avons compris qu'il y a vraiment le cas de flagrance, le cas de mauvaise gouvernance, et également le manque de collaboration, hein, comme tous les autres auditeurs de Mandaka l'ont évoqué. On va prendre Robert qui est à Libéré. Robert, bonjour.
Bonjour. Je voudrais ici, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse par rapport à cela, notamment par ce que vous venez de dire, cette province-là donne un mauvais exemple. Non, je pense que c'est un exemple de la démocratie. avec la démission de Makila, et aujourd'hui sept ministres au sein d'un gouvernement provincial qui démissionne. C'est, ça c'est vraiment de la, un très bel exemple qu'il faut suivre. Mais je, pour revenir à ça aussi, j'aimerais que vous puissiez aussi avoir un sujet comme quoi qu'on essaie un peu de voir la composition de tous ces gouvernements provinciaux à travers les pays. Parce que si je prends, excusez-moi, j'ai dit que c'est une parenthèse, la province du Sud-Ubangi, vous voyez sur 11 membres, je dirais, parce que là, dans 12, sur 12, c'est-à-dire le gouverneur, plus le vice-gouverneur et les 10 membres du gouvernement, vous verrez que dans le Sud-Ubangi, par exemple, il n'y a qu'une seule tribu qui a pris au moins, je vous dis, 10 postes ministériels. Ça, c'est un débat. Alors que si nous voulons l'unité de ces pays, nous ne pouvons pas aller là-bas. Bon, je ferme la parenthèse. Parlons maintenant de ce, de l'actuel gouverneur. Je pense que s'il est attesté que lui, effectivement, est accusé de mauvaise gestion, il faudrait que ces ministres-là présentent le preuve de cette mauvaise gestion. Et en ce moment-là, l'Assemblée provinciale peut prendre directement les dossiers en main et examiner et envoyer aussi le gouverneur voir comment est-ce qu'on peut analyser et dégager par exemple de la mauvaise gouvernance. Mais le PGR est là, on ne peut pas laisser ça comme ça, parce que si c'est le petit peuple là, directement c'est les nous, on l'amène en prison. Mais pourquoi pour des gens là, on doit dire qu'il doit avoir l'implication du chef de l'État? Non, on ne peut pas envoyer, parce que je suis le professeur.
Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne sait pas les vérifier, Robert, on ne sait pas les vérifier, mais Willy tout à l'heure disait que même les procureurs sur place à Mbandaka ont des problèmes avec les gouverneurs actuels, donc pour avoir été chassé une fois de la résidence du gouverneur.
La force reste à la loi. Ce gouverneur-là n'est pas un extraterrestre, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais je pense que par élégance politique, si lui vraiment était un homme élégant sur le plan politique, il allait démissionner. Vous avez 10 membres de votre gouvernement, 7 démissionnent et vous restez en place. Non, il y a un désaveu quelque part. De lui-même, à ça, même l'intervention de l'Assemblée provinciale, il devrait démissionner. Laissez-moi vous dire là, ça, parce que nous, à Libengué, ici, bon, on n'a pas l'occasion de passer, on est vraiment au nord-ouest du pays et quelque
chose. Oui, oui.
Parce qu'on n'a pas des médias d'ailleurs. Merci la radio.
Oui, alors nous, comme oui, Robert, oui. Oui, ça fait quand même plaisir d'entendre une voix qui vient vraiment du Congo profond comme la vôtre. Mais au sud du Bondi, on aurait même appris qu'à un certain moment, quand le gouverneur voyage, il ne laisse pas l'intérim au vice-gouverneur. Ça, c'est reconnu de tous.
Voilà, ça c'est connu, mais ça c'est les comportements typiques des Makila, par exemple. S'il prend, par exemple, sur les 10 membres de son gouvernement, 10 membres de son gouvernement, dont 9, dont disons 10, non, 9 sont membres, sont d'une seule même tribu. Donc vous voyez, et pourtant c'est des Sud-Ubangi où il y a des zones cosmopolites comme ça là. Donc vous trouvez qu'il y a des choses qu'il faut vraiment que le gouvernement central puisse avoir un droit de regard. Et ces assemblées provinciales là, je ne sais pas, on le place là-bas, donc ils sont là justement pour attendre, je ne sais pas, à la fin, ils ont l'air perdus, mais à la fin, et c'est fini.
Merci beaucoup.
Pas vraiment de contrôle.
Merci beaucoup. Donc, merci.
Pour ce qui est de ce gouverneur-là, il faudrait que les PGR prennent les choses en main et l'Assemblée provinciale aussi. Une fois terminé avec l'Assemblée provinciale, il faut qu'on montre, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un simplement de
mauvais. Sans épreuve. Parce qu'il bénéficie de la prévention de l'enfant.
Un petit peuple là, on allait déjà l'arrêter et le foutre en prison. Donc on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures en ce qui concerne le problème de la jeunesse. Si c'était un petit peuple, on allait dire qu'il a volé. Mais pour les grands, les bons du régime, on dit que c'est la mauvaise gouvernance. Il faut arriver à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on attend par la mauvaise gouvernance. C'est quelque chose, le détournement quelque part, c'est le vol. Il ne faut pas avoir, avoir l'habitude de cacher les mots comme ça, là, maquiller pour que le petit peuple ne pousse pas comme ça.
Voilà, merci beaucoup, Robert. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Le débat politique, c'est dans le dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais se focalise sur vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguimbo.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages sur notre page Facebook, ou d'ailleurs, c'est continuer à détenir cet échange citoyen également, pour ceux qui sont à l'étranger et encore d'autres qui sont à travers le pays. Michel Silumba dit ceci, il fallait s'y attendre, sachant qu'ils n'ont pas un mandat électif, chacun essaye de se remplir les poches avant qu'il ne soit tard. Cette crise des fonctionnements est récurrente et permanente dans presque toutes les provinces, même si on en parle, si on en parle jusque-là qu'à l'Équateur. Les gouverneurs se comportent en potentat et moi, je salue la bravoure, surtout l'indépendance morale des ministres démissionnaires. Damien Matumona dit ceci, décidément, l'exercice des fonctions du gouverneur Aïkanganguengue est une véritable gangrène, pardon. Tous les gouverneurs, ou presque, ont été commotionnés par les tristes péripéties de l'apprentissage de la démocratie dans ce coin de la RDC, à telle enseigne que l'on est tenté d'épingler la propension donc exponentielle à l'enrichissement rapide des politiques comme étant la cause de ce remue-ménage, et ce, au détriment de l'intérêt général des communautés locales. Bokeyembe Mikel de Guadolité, il est grand temps de trouver une solution qui fera en sorte qu'il y ait un terrain d'attente entre le gouverneur et ses collaborateurs. Nous revenons à vous, professeur Faustin Teagano, vous êtes politologue. Après avoir écouté les uns les autres, on se rend compte que c'est vrai, tout le monde évoque le texte qui réglemente le fonctionnement des institutions provinciales avec la loi, par exemple, la loi de la libre administration des provinces, dans son article 29, qui définit les prérogatives des uns et des autres. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment loin d'appliquer ces textes. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Oui, quelle est votre réaction?
Bon, je pense qu'il n'y a pas un grand problème au niveau des textes. Hein. Le texte, ce sont les textes des lois qui ont été suffisamment discutés par les assemblées législatives et promulguées par les chefs de l'État. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème au niveau des textes. C'est vrai que c'est toujours perfectible. Mais le problème, c'est au niveau des hommes qui sont placés à la tête des institutions, qui gèrent les institutions. Et pour les cas qui se présentent, j'ai bien voulu insister sur le fait que c'est quelque chose qui ne doit pas être généralisé du coup comme ça. Il y a des provinces qui essaient de se battre, qui fonctionnent, il y a des gouvernements qui sont cohérents, qui sont unis, et qui fonctionnent et qui essaient de relever les défis. Il y en a, il faut quand même reconnaître ça. Mais ce qui se passe à l'Équateur, je pense que c'est un cas particulier qu'on n'a pas encore observé ailleurs, à enregistrer cette démission à la même période. C'est une particularité. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on doit plutôt appliquer les textes. Et que disent les textes? Les textes disent que dans pareilles circonstances, l'Assemblée provinciale, si elle est constituée des hommes capables de contrôler le gouvernement provincial, doit se saisir immédiatement de la question. Elle est en pleine session, elle va se saisir immédiatement de la question pour appeler le gouverneur et mettre en œuvre les instruments juridiques à sa disposition pour comprendre en détail, au fond, qu'est-ce que le ministre démissionnaire veut le dire par la mauvaise gouvernance. Comment on peut établir cette mauvaise gouvernance? Donc, qu'est-ce que le ministre démissionnaire voudrait dire par un manque de collaboration? De quoi s'agit-il exactement? Si ces faits sont vraiment établis, évidemment, l'Assemblée provinciale dispose d'un arsenal de mécanismes pour sanctionner le gouverneur. Et je dis aussi que ça, c'est une légitimation lorsqu'on doit rester dans les textes. Mais nous devons savoir comment sont désignés les gouverneurs. Il y a d'abord, en amont, le compromis des familles politiques. Je disais que ces familles politiques ne doivent pas rester indifférentes. D'où vient le gouverneur? Il vient de quelle famille politique? Cette famille politique doit se sentir interpellée. Est-ce que c'est un indépendant? Eh bien, s'il est indépendant, eh bien, à la tête d'une institution, d'une province, qui ne doit pas évoluer comme un électeur libre. Il y a au niveau, à la tête du pays, des institutions qui en charge le bon fonctionnement des autres institutions qui doivent veiller à ça pour que la population de l'Équateur ne puisse pas souffrir pendant longtemps.
Oui, est-ce que, professeur,
des déficits d'un gouvernement.
Est-ce que, professeur, on ne risque-t-il pas de vivre la crise d'avant 2011 avec cette majorité qu'on a dans l'Assemblée provinciale qui est directe, une majorité acquise pour l'opposition, mais qui, en fait, vivait à couteau tiré, par exemple, qui a décidé de la démission de l'ancien gouverneur Baïndé, et par la suite, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait réhabilité Baïndé. Alors, est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver dans cette situation, actuellement, que l'Assemblée provinciale, qui est de l'opposition, puisse prendre une décision qui sera mal digérée du côté, par exemple, de la majorité?
Je pense que au-delà des clivages politiques, mais les faits sont écrits. Mais si ce qu'on affirme hein, à travers les ondes, ce que les intervenants affirment qu'il y a eu des détournements, et il y a la mauvaise gestion des fonds de la rétrocession, il y a ceci, il y a cela, si ces faits sont établis, mais ces faits méritent d'être sanctionnés. La sanction peut venir de l'opposition, de la majorité, mais on sanctionne les fautes de gestion. On ne sanctionne pas nécessairement parce que tel qui est coté c'est de telle ou telle famille politique. Là, on applique la loi. Et si le fait mérite de traduire son auteur devant le cours des tribunaux, évidemment, il y a une instance compétente pour mettre en accusation, pour traduire le gouverneur devant le cours des tribunaux, afin qu'il réponde à ses actes, si ça s'établit. Mais on doit éviter des procès d'intention, parce que c'est facile d'affirmer qu'il y a mauvaise gouvernance. Mais il faut établir cela.
Tout à fait. Vous
voyez, c'est facile d'affirmer qu'il n'y a pas de collaboration, mais ça doit être établi. Bon, il y a des organes compétents en cette matière, et qu'on doit saisir et qui doit faire leur travail.
Alors, on va continuer à faire cet exercice, cet échange de citoyens avec d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Professeur, nous vous gardons toujours en ligne. Le temps de d'accueillir aussi les autres auditeurs qui nous ont rejoints dans les débats qui tournent autour des cas de démission, les trois nouvelles démissions qui ont été enregistrées lundi dernier au sein du gouvernement de l'Équateur que dirige Tony Bolamba. Les ministres provinciaux de la communication, de la justice et du budget ont rendu leur tablier. Cela porte à 7 le nombre de ministres démissionnaires en l'espace des 3 mois, dans sur les 10 que compte le gouvernement provincial. Alors, tous reprochent au gouverneur la mauvaise gouvernance, la confiscation des prérogatives et le manque de collaboration. Alors, comment commentez-vous cette actualité? Michel, vous êtes à Matadi, honorable Paulin. Odiane, vous êtes à Isiro, gardez la ligne, on vous accordera la parole d'un moment à l'autre.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse chinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le maire de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Tapi met le Congo à la une.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous sommes en Matadi avec vous, Michel. Vous avez raison, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, à Matadi, au moins, il y a eu quand même restructuration du gouvernement provincial il y a quelques mois. Si ma mémoire est très bonne, c'est pratiquement au mois de novembre 2016 qui a eu, 2015 qui a eu cette restructuration. Mais du moins, on sait que la situation qui prévaut actuellement à l'Équateur, les Congo central les connaît pas, ce genre de conflits, ce genre de difficultés.
Non, c'est seulement peut-être parce que de tels postes, ce sont des postes prestigieux qu'on ne peut pas abandonner à tout moment. Mais je crois que tous ces bruits court partout. Parce que je crois que ce que le gouverneur devait chercher d'abord, c'est la cohésion provinciale. Parce que vous allez vous rappeler que lorsque vous voyez même ce qui se passe dans des réseaux sociaux, Le problème est que la tête déjà est malade. Lorsque la tête est malade, c'est tout le corps. Vous ne saurez même pas bouger. La tête est déjà malade. Moi, je me dis, lorsque vous commentez, vous prenez même tous ces commentaires qui se passent dans les réseaux sociaux. Si cette affaire qui passe à l'Équateur. Mais vous allez vous poser la question. Parce que on dirait que la population de l'Équateur s'est joint à ces ministres démissionnaires. Mais ça, c'est la question que vous devez poser maintenant aux députés provinciaux de cette province. Comment la personne du gouverneur est passée? Parce que ce sont les députés qui ont élu les gouverneurs. Vous savez, dans notre pays, nous avons une maladie. Moi, je souhaiterais que à la loi qui a été adoptée, qu'on puisse encore mettre un point où tous les gouverneurs qui passent devaient être aussi formés. Vous savez, la compétence, la connaissance, la formation forment un tout. Mais j'ai suivi un peu de presse qu'avait tenu le gouverneur. Mais j'ai senti d'abord, lorsque vous faites une publique, vous sentez d'abord c'est quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui connaît tout. Et moi je crois aujourd'hui le leadership exige que même lorsque nous allons prendre des décisions, que ça ne soit pas des décisions unilatérales. Vous venez un commentaire, vous venez, vous vous imposez. Ce n'est pas bien.
Bon voilà, je crois qu'à un certain niveau, Michel, bon, c'est vrai, c'est votre appréhension, c'est aussi votre appréciation par rapport au discours tenu par le gouverneur, mais je crois que pour juger quelqu'un, ça ne demande pas simplement, ça demande quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Ce n'est pas seulement l'apparence, ce n'est pas son parler, mais voilà, le problème de fond, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, les politologues, qu'il va falloir que ceux qui accusent aujourd'hui l'actuel gouverneur de l'Équateur de mauvaise gouvernance, encore faut-il qu'il présente des preuves qui prouvent à ces gens qu'il y a un cas de détournement pour qu'ils puissent être frappés sous le coup, par exemple, de détournement de fonds publics. Il y a des mécanismes mis en place, par exemple, pour contrôler et déterminer des responsabilités.
Mais tout ça, c'est parce que nos députés provinciaux dans l'Assemblée de la République, ils ne jouent pas les rôles. Parce que moi, je pense qu'avant même que ces ministres puissent démissionner, la situation devait être déjà claircie au niveau de l'Assemblée provinciale. Je crois que si la chose devait d'abord aller à l'Assemblée nationale, je crois même que ce type de démission n'allait pas avoir lieu. Mais aujourd'hui, parce que les assemblées professionnelles dans toute la République ne font pas l'air. Ils sont là. Moi, je les considère comme ce sont les universités. Ce sont des gens qui sont là-bas pour apprendre encore. C'est pour cette raison que je suis en train de dire, il faut que toutes les autorités, quelle que soit la place que vous êtes, vous devez d'abord être formés. C'est ça la base. Parce que déjà, nous avons un problème d'hommes partout. Partout où nous sommes affectés.
Voilà, merci beaucoup Michel, parce que vous incriminez les députés provinciaux. Nous avons le plaisir d'ailleurs d'accueillir dans cette émission l'honorable Paulin Audiane, qui nous a appelé des Siro. Honorable Paulin, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci mon frère Gér, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, le travail qui devait être fait par les différentes assemblées provinciales, on a l'impression que aujourd'hui il y a une certaine complicité entre les députés provinciaux et en fait ceux qui dirigent les exécutifs provinciaux. On ne sait pas quelle doit être la raison de cette inefficacité ou de ce manque de performance des députés provinciaux pour traiter par exemple ce genre de conflits.
Merci beaucoup. Je crois que certains intervenants ont essayé d'épingler cette question. Nous sommes devant un cas sui generis. Nous avons un gouverneur qui vient de la majorité présidentielle et l'Assemblée provinciale de l'opposition. Donc, comment une assemblée de l'opposition peut élire un gouverneur provenant de la majorité? Cela signifie tout simplement qu'il y a eu corruption au début. Et comme il y a eu corruption au début, nous ne pouvons que continuer dans le système de la corruption jusqu'à la fin. Et c'est ce système de la corruption qui affaiblit davantage le fonctionnement normal de l'Assemblée provinciale. Donc l'Assemblée provinciale, corrompue dès le début, ne peut pas contrôler efficacement le gouverneur ou le gouvernement provincial. Et dans les cas d'espèce, lorsqu'on est devant la démission de 7 ministres, cela signifie tout simplement que le gouvernement est réputé démissionnaire, parce que la majorité de ses membres est partie. Par conséquent,
si on est dans un pays qui se respecte, et on est devant les hommes qui respectent leur dignité, le gouverneur allait tout simplement démissionner. Parce qu'en lisant les textes, il est pratiquement impossible pour que l'Assemblée provinciale puisse voter une motion de censure contre un gouvernement qui n'a pas encore fait 6 mois. C'est pratiquement impossible. Donc la loi est servie là. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on constate réellement qu'il y a une gestion, donc l'Assemblée est dans les droits de transmettre ou d'accuser le gouverneur devant les centres judiciaires compétentes. Mais l'Assemblée ne fait pas ça. Mais depuis le début de cette crise, à moins que je me trompe, je n'ai pas encore suivi l'intervention de membres du bureau de l'Assemblée provinciale ou de la plénière de l'Assemblée provinciale. Donc, de ce côté, il y a un calme absolu. Donc, on ne fait absolument rien. C'est comme s'il n'y a pas eu une crise au niveau de la province et tout le monde s'était. Et après mes analyses, je peux tout simplement constater que non, il y a un problème de faux de vin qui ne permet pas aux gens de prendre position face à cette crise. Et dans notre pays, si on est de la majorité présidentielle, c'est pratiquement impossible pour qu'on soit poursuivi. Donc ce n'est pas un cas particulier aujourd'hui, nous avons vécu ça pendant toutes les années que nous avons passé à l'Assemblée provinciale. Donc on est membre, on est gouverné de la majorité, même si on sait faire sans servir le peuple, on ne peut pas se sanctionner. Donc c'est comme ça, c'est une situation générale. Et il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider dans cette situation, sinon moi, personnellement, et puis petit, c'est pas à l'Équateur.
Mais est-ce que vous
c'est comme ça, c'est pas seulement pour l'Équateur. C'est pas tout, les gouverneurs ont confisqué tous les pouvoirs, ce sont eux qui dictent le tout, et ils se permettent de mettre des gens qui sont à leur solde. Mais au moins, nos amis de l'Équateur, ils ont pris le courage de démissionner. Les autres ne peuvent pas démissionner parce qu'ils se promènent avec des gardes du corps et ils font semblant pour dire qu'ils sont des ministres, ils sont des autorités, ainsi de suite. Mais au fond, ils ne font rien parce qu'ils ne peuvent pas décider que les secteurs sont confisqués par l'autorité provinciale qui gère tout comme un souverain premier.
Voilà,
c'est général.
Voilà, si je comprends bien pour vous, il y a certains ministres qui se contentent donc des privilèges des gens qui bénéficient, hein, à l'état ministre, des privilèges de la fonction. Qui fait que aujourd'hui, bon, on a du mal quand même à prendre ses courage et vous encouragez les ministres provinciaux de l'Équateur qui ont pris cette décision courageuse de pouvoir monter en face du monde que voilà, donc la démocratie se vit aussi à l'Équateur. Merci beaucoup, Paulin Oudiane. Merci à Marcel de nous avoir rejoints. On vous accordera la parole de l'un à l'autre. Le temps pour nous de découvrir le message de Franck Mbonimpo qui nous a dit ceci, chez nous, la politique n'a pas sa première mission classique reconnue depuis l'ère antique, celle de penser à l'organisation et surtout à la vraie organisation de la cité. Ce qui se passe à l'Équateur doit donner à penser pas seulement sur l'essence du courage citoyen que se donnent ces ministres en démissionnant. Démissionner c'est d'un tel poste en RDC est presque rare. Ce qui inquiète, selon moi, c'est aussi le silence de l'Assemblée provinciale de la dite province. Ce gouvernement a été investi sur base d'un programme présenté devant les députés et lequel a été jugé recevable. Maintenant que 7 sur les 10 ont démissionné en moins de 3 mois, quelle crédibilité a encore ce gouvernement? Et pourquoi il n'y a aucune interpellation du gouverneur pour s'expliquer devant les élus du peuple? Pourquoi le gouvernement central observe cette situation comme si de rien n'était? Le malaise de faire fonctionner toutes ces nouvelles provinces issues du démembrement s'est fait sentir pas seulement à l'Équateur, mais aussi ailleurs. On ne gouverne pas sans subvention. On ne dirige jamais sans moyens suffisants. Il y a des députés de certaines provinces qui évoquent les mêmes difficultés. Si ce climat de démission en cascade doit avoir lieu dans d'autres provinces, on risque de donner raison à ceux qui émettaient des réserves pour procéder au démembrement maintenant. Voilà, donc c'est le point de vue de Franck Mboni de Kinshasa. Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Guerre. Merci pour la parole.
Quel est votre avis dans ce niveau de débat?
Monsieur Guerre, tout Congolais bien avisé, il ne peut pas se donner ce qui se passe à l'Équateur. ce qui se passe à l'Équateur, ce qui se passe dans toutes les provinces de la RDC. Mais la différence, c'est que les autres provinces, les gouverneurs partagent leur butin avec les gouverneurs, c'est comme ça qu'ils ferment l'eau. Celui de l'Équateur, il s'est montré un peu gourmand, il mange seul, c'est comme ça que les autres ont dénoncé. Vous voyez bien. Au Congo, le détournement, c'est seulement de gestion du régime actuel. Quand M. Katumbi était au pouvoir, l'État culé, c'était le meilleur gouverneur. Mais quand il quitte, puisqu'il a dénoncé le pouvoir, maintenant on nous dit que c'était un mauvais gestionnaire. C'est la même chose avec tous les autres gouverneurs ici. Même ici à Kinshasa, il y avait un monsieur, un président de l'Assemblée, c'est peut-être, je crois que vous connaissez l'histoire. Mais ce monsieur-là, il a été assassiné puisque il s'était interposé sur ce que le monsieur le gouverneur c'est juste comme ça qu'il est en
place. Voilà, je crois que nous n'allons pas nous mixer, dans les dossiers, par exemple, des enquêtes, parce que la justice qui s'est saisie de cette affaire, a mener les enquêtes comme il faut par rapport à cette question. Je crois que les paroles aux auditoires, ce n'est pas les auditoires où on doit parfois rappeler des messieurs de la justice ou encore d'autres choses. Donc, mais vous dites que la situation elle est de manière un peu générale, c'est ça, hein?
Oui. Rappelez-vous, le Mbandaka, il y avait un gouverneur qu'on appelait M. Bayembe. Il était, je ne sais pas, dénoncé par la population, puisqu'il avait détourné l'argent de la voirie publique. Et le président de la République lui-même avait pris la décision de le démettre. Mais curieusement, quand on fait l'appel à la candidature, le même monsieur a été présenté comme candidat. C'est-à-dire, c'est le mode de gestion de la majorité présidentielle. Ça ne peut étonner tout un chacun. D'ailleurs, le mode de gestion que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays, c'est le détournement. Rappelez-vous, dans le temps, il y avait un monsieur qui était directeur du cabinet au sommet de l'État. Il avait détourné 30 millions de dollars. Et il était suspendu pour des raisons d'enquête.
Comment entrevoyez-vous la suite de cette affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'intervention de l'Assemblée provinciale puisse être vraiment une intervention urgente? Comme l'a dit notre invité, l'Assemblée provinciale doit mettre ça parmi ses priorités. En tout cas, la matière à traiter en priorité dans la session qui se fait actuellement, à ce 2 septembre.
L'Assemblée provinciale ne fera rien, puisque ce sont des corrompus. Ils savent ce qui se passe dans leur province. Ce sont des corrompus. La solution dans tout ça, c'est qu'il faut vraiment un changement de mentalité. Et tant que nous avons ce régime, il n'y aura jamais un changement de mentalité. Donc, si vous voulez bien servir la population, il faut critiquer le régime.
Merci.
Vous le trouvez directement en prison.
Merci.
Et la régression, le détournement.
Merci beaucoup, Marcel. Vous avez pédé vos 2 minutes. On va prendre Maître Jean-Paul, qui est en Bandaka également. Maître Jean-Paul, gardez la ligne. Il est temps pour nous de revenir à notre invité, le professeur Fonseca Toegano. Vous êtes encore avec nous en ligne. Oui, professeur, vous êtes avec nous? Voilà, on a perdu le professeur, notre invité, le temps que la réalisation puisse nous aider à le retrouver pour nous amener vers la conclusion. On va prendre Maître Jean-Paul qui est en Bandaka. Maître Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, quel est votre avis à ces niveaux de débat?
Bon, Gilles, je n'ai fait l'apologie d'aucune mouvance politique. À titre de rappel, le gouverneur, lorsqu'il est venu ici, c'est qu'il était comme Sosoga. C'est lui qui empêche le développement de l'Équateur. Je vais l'empêcher d'empêcher le développement de l'Équateur. Si vous lisez l'article 197 de la Constitution, il est dit que les articles 146, 147 sont d'application mutatis mutandis au gouvernement provincial. Et dans l'espèce, je suis en train de présager une crise persistante entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Parce que l'avant-dernière équipe démissionnaire, tous les membres étaient députés provinciaux, les électeurs du gouverneur. Et maintenant qu'ils ont démissionné, quelle sera la conséquence? Ils sont tous rentrés à l'Assemblée provinciale. Je suis sûr et certain que l'ex-4 matin, je suis en train de présager une motion de censure. Parce que l'article 166, il dit que la motion de censure est recevable lorsqu'elle est signée par un quart des membres composant l'institution. Et ils sont trois. Je suis sûr et certain qu'ils doivent persuader, ils ont cette capacité de persuader d'autres députés provinciaux, n'est-ce pas, pour démettre et congédier le gouvernement provincial.
Merci Jean-Paul.
Allô?
Oui, donc, allô? Donc vous dites que vous craignez que dans les jours à venir, qu'on puisse vivre cette crise au niveau de l'Assemblée provinciale, parce que ceux qui étaient parmi les ministres, il y a d'autres qui ont récupéré leur siège au niveau de l'Assemblée provinciale, et ça risquerait d'influencer donc d'autres députés pour qu'on engage une motion de censure contre les gouverneurs.
C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est l'équipe, l'avant-dernière équipe des missionnaires, ils étaient tous des membres de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire les électeurs du gouverneur. Maintenant qu'ils sont rentrés au Parlement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont persuader à leurs amis de pouvoir démettre le gouvernement d'exécution.
Voilà. Alors, mais la crainte aujourd'hui, parce que le départ, est-ce que vous dites comme les autres que le départ a été biaisé? C'est le choix parce que l'Assemblée provinciale est entièrement de l'opposition, mais le gouverneur est de la majorité.
Bon, selon mon point de vue personnel, moi je ne peux pas quand même élire un indépendant. Parce qu'on doit élire quelqu'un qui est issu d'un parti politique, qui a une idéologie, qui doit respecter ses idéaux. Vous avez lien indépendant. Mais vous attendez à tout ce qui peut y advenir. C'est ça?
Oui, il est membre de la majorité, mais il s'est représenté comme indépendant. Il a été élu. Voilà, donc pour vous, c'est déjà un problème dès le départ. C'est ce qui serait d'ailleurs même à la base aujourd'hui de cette crise que vit la province de l'Équateur nouvellement démembrée. Merci beaucoup. Coq Alexandre, vous êtes à Manolo. Bonjour, Coq.
Oui, bonjour, Julien.
Quel est votre avis à ce niveau du débat?
Bon, en vrai dire, je devrais d'abord saluer les départs de ces gouverneurs qui ont démissionné dans l'actuel gouvernement de l'Équateur.
Des ministres.
Il y a assez de gouverneurs qui assistent leurs dépendants dans leur gouvernement. Tel que à Bukavu, il y a le gouverneur Masele Tshambo. Lui-même, il est le gouverneur et à la même fois, il est le ministre des hydrocarbures. Vous allez voir aussi d'autres gouverneurs. Il joue presque tous les rôles de ce ministre. Pour dire que le fait de ce ministre de démissionner, c'est un signal fort pour les autres ministres qui ont du mal à sortir de ces mauvaises gouvernances qui se voient dans notre pays. Puisqu'il y a d'autres qui sont révoqués, il y a d'autres qui veulent sortir, mais il n'y a pas moyen qu'ils craignent soit la mort ou d'autres craignent qu'ils soient interpellés par la mauvaise ingérence de notre gouvernement. C'est juste ça ma contribution, JR.
Merci beaucoup, Coq, et vous avez rejoint la plupart des auditeurs qui nous ont écrit et qui craignent également cette crise qui peut prendre des allures un peu inquiétantes si jamais le gouvernement central par le ministère de l'Intérieur ne s'appliquait pas pour résoudre cette crise, et aussi l'Assemblée provinciale qui doit élever les débats, aussi appeler les uns et aux autres au calme. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous profitons d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont participé à ces débats, qu'il s'agisse au niveau de notre page Facebook ou encore sur notre site. À vous tous, merci. Merci aussi à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Pesabongonda et Pierrot et la Mégie. Gilles Lungembo, Loabung Angie a eu le plaisir de coordonner et présenter ces programmes sous la supervision de Martin Sebou et Javier. À très bientôt pour un autre numéro.